Radio Pleine Lune 93.8 MHz, ce soir dans notre émission du soir, Cause toujours, tu m'intéresses. Nous recevons donc Rosisca Darcy de Oliveira pour son livre Le féminin ambigu. Alors on vous a mis dans l'ambiance avec la musique brésilienne, c'était Gal Costa, parce que effectivement, Rosisca, tu es brésilienne, tu nous viens du Brésil d'ailleurs, tu as cet accent absolument charmant, moi qui me fait toujours fondre. Et tu es venue, tu as passé plusieurs années à Genève comme exilée. Et c'est là, en fait, que tu as fait ce travail qui a été une thèse, puisque tu travaillais à l'Université de Genève, qui est publiée aujourd'hui sous le titre de « Féminin ambigu ». Alors, j'ai ce livre sous les yeux. Et il est illustré par une peinture de Picasso, une femme qui se regarde dans son miroir. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cette peinture? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi?
Tu sais, j'ai vu ces tableaux pour la première fois en 1963, c'était au Musée d'art moderne de New York.
Goiaba quase de vez, mamoeiro dá leite que fel, pitanga do céu, amor de maçã, debaixo do frio. Dentro do mato, fruto do ato, ligado à resina de cajá, manga, espada, inchada. Eu sou do mato, brinquei com maturi, vou ficando por aqui nas costas da madrugada. Dentro do mato, fruto do ato, ligado à resina de cajá, manga, espada, inchada. Eu sou do mato, brinquei com maturi, vou ficando por aqui.
Bon, on repart. Petit incident technique, vous l'avez reconnu, c'est Radio Zone, c'est normal. Les incidents techniques font partie de notre quotidien et c'est presque notre indicatif. Alors, je demandais à Rosisca de nous expliquer pourquoi elle avait choisi donc cette peinture de Picasso pour illustrer son propos et son livre.
En fait, je l'ai vu pour la première fois, ce tableau, en 1963, au Musée d'Art moderne de New York. Et ce tableau représentait donc une femme qui s'y regardait sur un miroir. Et puis les visages qui se projetaient dans le miroir n'étaient pas le sien. C'était un autre qui la regardait donc du fond du miroir. Et tous ces visages picassiens qui sont toujours partagés en plusieurs visages, qui sont déchiquetés et qui sont finalement recomposés dans un même visage par les morceaux, comme un mosaïque, hein, par les morceaux de ces déchiquetages. Bon, j'étais très frappée par cette image comme ça, parce qu'elle m'a évoqué sur le moment quelque chose que je n'ai pas reconnu. Hein. Il y a eu comme ça un premier mouvement de passion, un mouvement d'attachement à ce tableau, et je ne savais pas pourquoi, et finalement il a fallu des années. Il a fallu presque une dizaine d'années pour que je reconnaisse dans ces tableaux ce qui a donné finalement le titre à mon livre, que je reconnaisse l'ambiguïté des femmes, c'est-à-dire que je reconnaisse dans ce tableau ces visages éclatés, ces visages qui est fait de plusieurs visages différents et qui malgré cette division, malgré ces déchirements, finit quand même pour constituer un visage qui est le nôtre aujourd'hui, qui est, je pense, celui de notre génération. C'est-à-dire que ma passion pour ces tableaux, ça a été la passion d'une génération, enfin, d'un temps, d'un groupe de femmes qui ont pris énormément de risques, qui, en prenant ces risques, ont vu leur visage s'éclater et qui, finalement, ont vu aussi que leur nouveau visage était fait de ces morceaux. On est fait comme ça. C'est-à-dire, on a un visage avec des cicatrices, on a un visage qui n'est pas entier, mais celui-là est le nôtre, c'est-à-dire la génération des femmes ambiguës.
Parce que ton livre s'inscrit vraiment dans une trajectoire féministe, c'est-à-dire que tu es partie de ton expérience de féministe à Genève, puisque ce livre a été écrit à partir de ton expérience genevoise. Et c'est à partir de cette recherche à la fois individuelle mais collective que tu essayes de mettre en évidence une identité des femmes.
Oui, en fait, tu as raison de dire que ce livre est un livre genevois. Hein. C'est-à-dire qu'il est né, en fait, au MLF. Il est né aux années 70, quand il y avait donc ces mouvements des femmes à Genève qui se constituaient dans des petits groupes qui étaient constitués des petits groupes de femmes qu'on appelait à l'époque des groupes de conscience. Enfin, vous vous souvenez, c'était des femmes qui se rencontraient, qui racontaient leur vie, qui discutaient de leurs problèmes et qui, en les faisant, mettaient en question l'identité traditionnelle des femmes et se découvraient d'autres.
Hein. C'est-à-dire cette même démarche que ce tableau. C'est-à-dire on éclate ce visage.
Mais voilà.
Et à travers ça, on
se regarde dans un miroir, et puis celle qu'on retrouve au fond du miroir n'est pas la même que nous, c'est une autre. Hein. Et c'est cette autre femme, enfouie, cachée, hein, mais qui est quand même, qui nous attend quand même au fond du miroir, c'est celle-là qui m'intéresse.
Et c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé au fond du miroir ?
Celle-là, je crois que c'est quelqu'un qui a grandi et qui s'est formé dans la tradition, enfin dans l'image de la femme traditionnelle, qui ne peut pas tout à fait s'en débarrasser, qui a toujours un contentieux par rapport à ses passés, mais qui est aussi la femme porteuse de l'avenir, c'est-à-dire celle qui a été révolutionnaire, celle qui a fait une rupture par rapport à cette tradition et qui a inventé une femme nouvelle, celle que nous avons été, je crois que notre génération a été une génération des femmes différentes de celle de nos mères, et pourtant encore habitée par ses mères, encore habitée par ses grands-mères. Et c'est là l'ambiguïté. C'est parce que nous avons d'un côté de devenir, je dirais, des hommes aussi, enfin comme les hommes, tout en gardant en nous une tradition féminine, tout en appartenant quand même à une culture féminine. Et finalement, nous sommes devenus des êtres bizarres qui étaient à la fois hommes, à la fois femmes, enfin hommes et femmes, ce qui est finalement un pari impossible. Et c'est peut-être pour ça que je parle d'ambiguïté. Hein, j'utilise cette expression dans le sens des coexistences des contraires, hein, dans un même individu.
Mais quand tu dis « on doit devenir homme », est-ce que ça part justement d'une recherche d'identité ou est-ce que ça nous est imposé par un modèle social dominant ? Parce que finalement, ce qu'on a pu voir, notre démarche, notre rupture, c'était dire non, on ne sera pas que des femmes comme nos mères, nos grand-mères qui sont restées certaines tout le temps à la maison, qui ont élevé les enfants, on sera autre chose, on sera aussi des acteurs sociaux, des actrices sociales. Mais la seule possibilité qui nous a été offerte, c'est d'être des actrices dans un théâtre qui n'était pas le nôtre.
Voilà, je pense que quand on disait nous ne voulons pas être comme nos mères, ce qu'on disait c'est nous ne voulons pas les mêmes limitations que nos mères ont subies tout au long de leur vie. Donc on disait maintenant nous sortons de la maison, hein. Nous allons dans le monde, nous allons conquérir le monde en dehors du foyer. Et ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'on nous dise très bien, faites-le, pourvu que vous le faites à notre manière. C'est-à-dire, vous entrez dans le monde des hommes, mais pour le faire, vous devez avant tout oublier que vous êtes des femmes. Vous devez faire disparaître vos racines dans le monde des femmes et vous devez intégrer sans trait du passé ces mondes masculins. Et il y en a beaucoup parmi nous qui l'ont accepté. Je me rappelle qu'à la fin des années, 80, j'ai été à New York. Et j'ai été très frappée parce qu'à ce moment-là, on ne rencontrait à la 5e avenue que des femmes en complet cravate. C'était donc, disons sur le plan symbolique, c'était bien l'image de ces femmes qui avaient conquis le monde des hommes. Hein. Mais à quel prix ? C'est-à-dire au prix du travesti absolu. Hein. Bon, alors moi, ce que je pense, c'est que ce n'était pas ça qu'on voulait. Hein. C'est-à-dire que nous avons été dessus dans la mesure où quand nous disions nous voulons une nouvelle identité, c'était certainement pas une copie de l'identité masculine. Mais c'était aussi quelque chose qu'on ne savait pas exprimer. C'est-à-dire c'était là notre difficulté, c'est qu'on disait d'une part nous ne voulons plus être comme nos mères, mais nous ne savions pas encore, et c'est normal, nous ne savions pas encore dire ce que nous voulions devenir. Or, nous ne pouvions pas savoir puisque nous étions en train de les devenir. C'est-à-dire, nous étions une génération témoin. Hein. C'était la génération, justement, qui était en train de fonder, si on peut dire, cette nouvelle identité. Et donc, c'était normal qu'on soit perplexe et qu'on soit confuse parfois et certainement et très souvent très angoissée.
Les Italiens, d'ailleurs, parlent de ça, un terme que je ne sais pas comment le traduire. Elles disent, dans ce monde des hommes, dans ce monde du travail, dans ce monde politique, tel qu'il nous est, tel qu'on nous propose, les femmes sont disagio. Elles sont en malaise.
Oui.
Mais c'est un malaise profond parce que c'est un malaise du corps. C'est-à-dire qu'on est là, effectivement, avec un corps de femme, avec des valeurs de femme, avec un temps, une temporalité qui est la nôtre. Et on doit se mouler dans ce monde des hommes. Et dans ce monde, on y est mal à l'aise.
Absolument. Et je pense que ces malaises se trouvent être finalement notre seul espoir. C'est-à-dire que je pense que c'est bien qu'on soit mal à l'aise. Je pense que finalement, même si ça nous a coûté un prix très haut, c'est bien qu'on se sente mal à l'aise parce que ça sert à nous montrer qu'il y aurait peut-être un autre monde possible. C'est très bien que les femmes offrent une certaine résistance à l'assimilation au monde des hommes, même si cette résistance, dans un premier moment, prend seulement la forme du malaise. Il faut d'ailleurs dépasser cela, parce que le malaise, on l'éprouve toujours comme un handicap personnel. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes mal dans notre peau, sommes nous qui ne savons pas quoi faire de nous-mêmes, et finalement, il faudrait, je pense, transférer à la société ces malaises. C'est-à-dire, la névrose individuelle, il faut la transformer en névrose sociale. C'est-à-dire qu'il faut la passer à la société, il faut, dans un certain sens, névroser la société pour qu'on puisse finalement nous sentir un peu plus à l'aise avec nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut montrer que finalement ces malaises ne viennent pas de nous, ni de notre incapacité d'adaptation, mais viennent du fait que c'est ce monde-là qui ne s'adapte pas à nous. Il faut peut-être inverser les termes, n'est-ce pas? Et ne pas nous appeler à nous inadaptés.
Sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. No nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Thank you.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Nous recevons Rosy Scadarci de Oliveira qui nous parle de son livre Le féminin ambigu. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève. Vous pouvez téléphoner si vous voulez participer à ce débat, poser vos propres questions, parler de vos propres réflexions, de vos propres expériences. Alors, dans ton livre, tu dis à un certain moment que, disons, à travers une série de recherches que tu as faites, trois faits saillants sont sortis sur la parole des femmes, sur l'identité des femmes, un rapport trouble au savoir, des aléas de la prise de parole et la peur de l'échec. Mais dans ce livre, tu parles beaucoup au jeu, donc tu n'as pas, toi, peur de cette prise de parole. Tu parles vraiment... Alors, à la fois, tu dis, mais les femmes, elles parlent justement toujours en disant « je », elles commencent toujours de leur subjectivité, elles n'arrivent pas à dire c'est une position, c'est comme ça pour tout le monde, elles parlent d'elles, mais tu le fais aussi. Tu parles d'un jeu, mais c'est aussi un peu, à la fois un jeu qui est toi, mais à la fois un jeu un peu collectif parce que ça recouvre l'expérience d'un groupe de femmes.
Oui, mais je pense que c'est encore une fois l'expérience d'une génération, c'est-à-dire celle d'apprendre à parler un jeu en voulant dire nous, les femmes. Et bon, évidemment, moi, j'ai la peur de la parole, je l'ai connue, je pense l'avoir dépassée aujourd'hui, entre autres grâce à l'expérience du groupe des femmes, là où nous l'avons trouvée et analysée. C'est là, justement, où nous nous sommes rendus compte de combien c'était difficile, par exemple, de prendre la parole en public. C'est curieux parce qu'on dit des femmes, et c'est vrai qu'elles parlent souvent beaucoup entre elles. Et je pense que c'est vrai, si on observe comme ça, c'est très facilement que les filles discutent entre elles. Et pas toujours du bavardage.
Enfin, non, mais on dit que les femmes bavardent et que les hommes parlent.
Voilà. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je crois que les femmes parlent très volontiers entre elles, pourvu qu'elles ne soient pas insérées dans une situation publique. C'est-à-dire que quand elles doivent parler en public, c'est la panique, on voit par exemple à l'université les étudiantes qui deviennent rouges au moment de prendre la parole, enfin qui sont toujours très embarrassées. Et je pense que ça tient au fait que la parole publique est vécue comme une transgression. C'est-à-dire que prendre la parole en public, ça veut dire envahir l'espace public. Et c'est ça l'espace qui est défendu. Et dans l'espace public, les femmes ont très souvent, je crois, la peur du ridicule. Elles ont un sentiment de ridicule. Enfin, elles ont peur de devenir ridicules, soit parce qu'elles s'expriment mal, ou parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, entre guillemets, comme il faut, soit parce qu'elles s'expriment très bien. Et si elles s'expriment très bien, ça veut dire qu'elles ont compromis leur identité. Parce que fondamentalement, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle s'exprime mal. Alors, c'est un jeu où on est toujours perdante. Et on le sait. Et c'est pour ça qu'on évite la parole. Parce que quelque part, on sait qu'on va toujours perdre. Qu'on soit bien ou qu'on soit mal, hein, on va perdre. Mm-hmm. Et je pense que c'est en cela que réside la peur de la parole. Et nous avons pu, disons, la trouver, l'analyser à l'intérieur d'un groupe de femmes, parce que c'était quand même un espace hybride. C'était à la fois public, puisque c'était un groupe politique, où on se réunissait, où on discutait des choses dites sérieuses, et en même temps, c'était un groupe d'amis. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'extrêmement détendu. Alors, entre ces privés et ces publics, ça a été possible d'identifier cette frontière qui nous est tellement menaçante, qui est la frontière du monde des hommes et la frontière de la parole publique.
Mm-hmm. Donc il y a eu ce travail, premier travail ou première expérience d'un groupe de femmes qui a abouti à la publication d'une brochure « Féminiser le monde ». Et cette recherche à travers une parole d'une identité de femme, tu as essayé après, dans ton travail d'universitaire, de la mettre en pratique.
Voilà. Parce que, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais enchantée de ces groupes de femmes comme expérience éducative. Bon, j'étais moi-même une formatrice, enfin, c'était ma profession, n'est-ce pas? J'ai travaillé dans les champs de la formation et c'était comme professionnelle, entre autres, que j'ai été fascinée par l'expérience du groupe des femmes. J'ai l'habitude de dire que le mouvement des femmes a été un des plus larges et des plus originaux champs éducatifs qui m'a été donné d'étudier et en l'occurrence d'y participer comme bénéficiaire. Hein. Donc j'étais à la fois dans ces groupes un membre à part entière, comme toutes les autres, qui était en train de récolter les fruits de cette expérience éducative, et en même temps une formatrice professionnelle qui voyait ce qui se passait, enchantée par cette manière de procéder et par les progrès que je voyais se produire chez les femmes. C'est donc à ce moment-là qu'il m'est venu à l'esprit que la faculté de sciences de l'éducation, enfin la FAPSE, pourrait faire une expérience similaire, enfin essayer d'élargir à d'autres femmes l'expérience qui avait été jusqu'à ce moment-là réservée à un certain nombre d'intellectuels. Donc c'est comme ça que j'ai proposé à la FAPSE de créer un cours qui s'est appelé « La formation des femmes ». Et qui existe jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ça a été à Genève un cours pionnier parce qu'il a d'une certaine façon inauguré à l'Université de Genève les études sur la femme. Et bon, c'est dans le cadre de cet enseignement que j'ai mené donc une recherche où j'ai compté avec l'aide de mes étudiantes. Et cette recherche s'est passée en fait dans des groupes similaires à ceux que j'avais vécu dans les mouvements des femmes et où nous essayons une même démarche. C'est-à-dire que nous avons défini la formation des femmes avant tout comme une analyse de son parcours, de sa biographie, de son histoire de vie, une analyse critique. Et s'est formée était donc jeter un regard critique sur son expérience, sur sa trajectoire et essayer de l'infléchir. Et les paris étant que dans cet acte, dans les faits même, de jeter un regard avec d'autres sur une trajectoire qui était quand même commune, enfin, qui avait des points communs, ou où il y avait des points communs, c'était plus facile de l'infléchir. C'était plus facile d'introduire des changements. Or, la formation, c'est fondamentalement une plateforme de changement, c'est rien d'autre. Et voilà pourquoi j'ai parlé des formations des femmes inspirées du groupe de conscience du mouvement féministe.
Sua casca é romance. Muito boinha você, viu, laranjinha doce, dulcíssima pitomba jura, amargura no caroço. Goiaba quase de vez, mamoeiro dá um leite que fel, pitanga do céu, amor de maçã, debaixo do frio. Já manga, espada, inchada. Eu sou do mato, brinquei com maturi. Vou ficando por aqui nas costas da madrugada. Dentro do mato, fruto do ato, ligado à resina de cajá. Manga, espada, inchada. Eu sou do mato, brinquei com maturi. Vou ficando por aqui, meu bem, me abraça. E a lua quer me dizer que... Thank you.
ebuis. Onde será que isso começa? A correnteza sem paragem, o viajar de uma viagem, a outra viagem que não cessa. Cheguei ao nome da cidade, não a cidade mesmo a espessa. Rio que não é rio, imagens, essa cidade me atravessa. Oh, oh, oh. Será que tudo me interessa? Cada coisa é demais e tantas. Quais eram minhas esperanças? O que ameaça e o que é promessa? Ruas voando sobre ruas, letras demais, tudo mentindo. O Redentor, que horror, que lindo. Meninos maus, mulheres nuas. Oh, 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 oh. Eboi, Eboiz. A gente chega sem chegar. Não há meada, é só o fio. Será que para o meu próprio rio, este rio é mais mar que o mar? Oh, 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 Eboi, Eboi, sertão, sertão.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, on se remet dans l'ambiance brésilienne avec Maria Bethânia. Nous continuons notre interview avec, notre discussion en fait, avec Rosisca Darcy de Oliveira sur son livre Le féminin ambigu. Restez à l'écoute dans quelques instants, la suite de notre programme.
Porque não cantar essa dor, esse gozo, esse povo sem par? Meu Deus! Primeiro o inventário, depois o inventar. Cantar o operário e cantar operar. Meu Deus!
Esse sonho vai dar.
Meu Deus!
Esse sonho vai dar.
Meu Deus!
Esse sonho vai dar. Meu Deus!
Que pena que a vida é pequena para tanto amor. E nenhuma palavra consegue significar. Meu Deus,
tá na terra e no ar.
Meu Deus,
que esse sonho vai dar.
Meu Deus,
que esse sonho vai dar.
Meu Deus. A mais rumba no